Juliette Rangeval.
Bonjour. Wait and see, disent les Britanniques. Attendre et voir. Dans 9 jours, faute d'accord sur l'avenir de la relation entre Royaume-Uni et Union européenne, ce sera le saut dans l'inconnu. Les premiers signes se font sentir sur l'activité des services en Grande-Bretagne. Et puis l'inquiétude est palpable aussi dans l'industrie pharmaceutique, l'un des secteurs économiques les plus régulés de l'Union européenne. Bonjour Frédéric Lebel.
Bonjour.
Frédéric, grâce à une réglementation commune qui permet de garantir la qualité des médicaments mis sur le marché unique, les industries pharmaceutiques, mais aussi les industries qui produisent des dispositifs médicaux comme les prothèses ou les implants, se sont habituées à travailler dans un environnement qui est fluide, sans barrière. Alors la possibilité d'un no deal, d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, ou même d'un Brexit dur, eh bien ça effraie le secteur qui essaie tant bien que mal de se préparer au pire.
Oui, on a beaucoup parlé des conséquences désastreuses d'un no deal pour les patients britanniques, notamment pour les diabétiques, mais on a peu parlé des conséquences sur l'Europe du départ des Britanniques. Or, il faut savoir que si le Royaume-Uni importe chaque mois 37 millions de boîtes de médicaments, il en exporte 43 millions. Donc la production de médicaments, qui fait appel à des principes actifs importés de Chine, du Japon et d'Europe, sans même parler des emballages, pourrait aussi pâtir des retards aux frontières qui pourraient perturber la chaîne de production et augmenter les coûts.
Alors ça, c'est pour la production, mais l'essentiel du problème réside aujourd'hui dans les autorisations de mise sur le marché.
Oui, par exemple, pour toutes les prothèses, les implants, les tests sanguins, tous ces produits peuvent être vendus en Europe parce qu'ils ont été testés et validés. Or, certains produits dépendent entièrement des organismes britanniques, ce qu'on appelle dans le jargon les organismes notifiés, qui ne seront plus reconnus en cas de no deal. Écoutez Serge Bernasconi, président de MedTech Europe, qui représente le secteur à Bruxelles.
Finalement, ce qui nous inquiète énormément, c'est que nous avons en face de nous la Commission qui continue de dire « mais il n'y a aucun besoin d'avoir un plan d'urgence, en particulier pour les dispositifs médicaux ». Mais on n'est pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, parce que nous ne pensons pas que tout soit sous contrôle. On pense éviter un problème il y a quelques semaines sur le sang, puisque le sang est bien sûr contrôlé avant d'être utilisé, et la grande majorité de ces tests avaient comme origine les organismes notifiés anglais. Bon, on a réussi in extremis à trouver des solutions en faisant recertifier ou accepter une certification anglaise par un organisme notifié allemand, qui devrait pouvoir permettre de garantir que l'on va avoir une certaine continuité, au moins dans la certification du produit.
On a entendu, le pire a été évité, il y aura encore des tests sanguins valides au niveau européen, mais toute une série de produits risque de manquer.
Par exemple, tout ce qui est implant orthopédique, implant ophtalmologique, tout ce qui peut être ce qu'on appelle en anglais sutures, donc tout ce que les chirurgiens se servent pour refermer les plaies lors d'opérations, ont tous en grande partie obtenu leur autorisation, je dirais, de mise sur le marché à travers des organismes notifiés anglais. Et donc, demain, ces produits pourraient ne plus avoir le droit d'être mis en circulation du jour au lendemain à partir du moment où vous avez un hard Brexit.
Et pour les autorisations de mise sur le marché des médicaments, ça se passe comment, Frédéric ?
Tout, bien sûr, est très intégré au niveau européen par le biais de l'Agence européenne du médicament, une agence qui fédère 5000 experts nationaux qui donnent leur avis sur la sécurité, la qualité, l'efficacité de tous les médicaments qui sont sur le marché européen. L'agence, qui était basée à Londres, a déménagé début mars à Amsterdam. Un quart de ses salariés ont d'ailleurs décidé de ne pas suivre le mouvement. Mais surtout, c'est toute l'expertise britannique au sein de cette agence qu'il va falloir redistribuer. Et on estime que les Britanniques effectuaient 20% de l'ensemble du travail, ce qui n'est pas rien.
Pour les deux grands groupes britanniques qui sont GlaxoSmithKline et AstraZeneca, ça voudrait dire quoi un départ non négocié de l'Union européenne ?
Ça voudrait dire que tous les médicaments produits par ces deux groupes britanniques devraient être testé deux fois, une fois sur le marché britannique et une seconde fois pour le marché européen, donc un surcoût, mais surtout d'énormes délais d'attente, y compris s'il y a un accord et un délai de transition. Écoutez Virginie Lefebvre du Tilleul, avocate spécialisée dans la santé chez Ernst & Young.
Après décembre et en cas de Brexit dur, tous les médicaments qui sont importés d'Angleterre devront être retestés physiquement sur le territoire européen, et ça prend à la fois beaucoup de temps parce qu'il faut retrouver des sites de test. Il faut changer tous les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et refaire les contrôles qualité pour s'assurer que tout tourne correctement. Donc ça, il y aura quand même beaucoup d'impact. Moi, je dirais que pour certains dossiers un peu techniques, ça peut prendre 1 an ou 2 ans facilement.
On l'imagine, les grands laboratoires internationaux ont déjà commencé à délocaliser une partie de leur production, mais pour les plus petites structures, c'est problématique.
Enfin, à plus long terme, c'est encore une fois la question de la perte d'expertise liée au départ des Britanniques qui est le plus à déplorer.
Oui, j'ai rencontré Fernand Sauer, qui a été le premier directeur de l'Agence européenne du médicament lorsqu'elle a été créée en 1995. Il déplore le risque d'une recherche européenne privée de ses atouts britanniques, principalement pour les essais cliniques, ces essais sur les patients avant la mise sur le marché d'un médicament.
Sur les 4000 essais cliniques conduits dans l'Union européenne, 1500 sont faits dans des cliniques britanniques. Hein. Donc, est-ce que les résultats seront reconnus ? Pour moi, ce que je comprends, c'est que tout ce qui a été fait avant, sous l'empire du droit européen, sera reconnu. Mais pas les nouvelles activités.
À beaucoup plus long terme, on peut imaginer que les grands laboratoires pharmaceutiques britanniques qui bénéficient beaucoup de la recherche financée par l'Europe vont pâtir.
Par exemple, il y a un projet qui s'appelle l'initiative pour les médicaments innovants. L'industrie doit mettre sur la table la moitié du budget et l'Europe finance l'autre moitié qui va aux universités. Mais cette partie qui va aux universités n'ira plus aux universités britanniques.
On l'a compris, ce sont donc des cerveaux, des laboratoires de tests de mise sur le marché et un partenaire dans un marché très régulé que les Européens risquent de perdre avec un Brexit sans accord.
Merci Frédéric Level.
Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante 3 interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el caudillo,
plus de 40 ans après la mort de Franco, les fantômes de la dictature hantent toujours l'Espagne. Un petit village d'Estrémadure de 2500 habitants préfère renoncer à une importante subvention publique plutôt que de changer de nom. Ce village s'appelle Guadiana del Caudillo. Caudillo, c'est comme cela que se faisait appeler Franco, une référence historique pour la mairie, Diane Cambon.
C'est un village sans trop de charme, tout blanc, qui s'étale au milieu des plantations de fruits. Guadiana del Caudillo fait partie de ces dizaines de villages construits dans les années 50 par le régime franquiste pour freiner l'exode rural. À l'époque, chaque famille dénommée colon obtenait de l'État un lopin de terre et une maisonnette. La mairie, gouvernée par le parti d'extrême droite Vox, refuse d'appliquer la loi de la mémoire historique qui stipule le retrait de tous les vestiges franquistes de l'espace public.
L'adjoint au maire, José Antonio, défend sans embâge ces symboles d'une autre époque.
Ce village est né avec ce nom et je crois qu'il faut le conserver. L'histoire, c'est l'histoire. Et ici, cela a été une bonne chose. De nombreuses familles ont eu la chance de pouvoir bien vivre.
Maria José avait 5 ans lorsque ses parents sont venus s'installer dans une des coquettes maisons blanches. Comme beaucoup d'habitants, elle garde ses distances avec la polémique.
Ça fait 65 ans que je vis ici et ça m'est complètement égal que l'on garde ou change le nom du village. Mais c'est vrai que l'on doit tout à Franco. Le maire ne veut pas retirer la plaque et comme c'est lui qui décide, il a le dernier mot.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Pour Juan, un villageois d'une 60aine d'années, c'est incompréhensible.
Je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas la loi de la mémoire historique. C'est une loi très importante. Il faut enterrer ce passé, il faut enlever la plaque, retirer les cuissons et changer le nom du village. Cette histoire doit appartenir au passé. On doit tourner la page de cette histoire et l'enterrer à jamais.
Sur la place du village, une plaque commémorative rappelle la visite du chef d'État, Francisco Franco, en 1951, et un écusson du régime orne la façade de la mairie. Pablo, âgé de 30 ans, qui travaille dans la construction et qui n'a connu que la démocratie, ne cherche pas à dissimuler sa honte.
C'est pas vraiment une situation normale. Moi, cela me choque. Et toutes les personnes qui viennent de dehors, la première chose qu'elles font, c'est de prendre une photo de la plaque. Car c'est vraiment un truc curieux.
Pour la deuxième année consécutive, la région d'Estrémadure a décidé de geler les aides au village tant qu'il ne retire pas les vestiges de la dictature. Pour l'adjoint au maire, il s'agit d'une attaque personnelle.
C'est une décision très arbitraire et partisane.
Ils exercent un chantage contre le maire pour qu'il perde les élections. Alors que ce sont les juges qui doivent décider si on respecte la loi ou pas, et si on a le droit à une subvention ou non. Et puis cette loi de la soi-disant mémoire historique, elle est très arbitraire aussi. C'est drôle, car ceux qui critiquent le plus Franco, ce sont les jeunes, ceux qui ne l'ont même pas connu.
Le risque de perdre 250 000 euros de subvention a fait réagir une partie des citoyens. Paola n'aime pas la politique, mais pour elle, la subvention a plus de poids que tout le reste.
Les gens d'ici ont manifesté pour retirer le nom, car si on ne fait rien, on ne va rien toucher. On s'en fiche du nom, nous on pense aux bénéfices pour le village. Ça va déjà pas fort, alors on ne va pas aggraver la situation.
Les élections municipales du 26 mai vont être décisives. Guadiana del Caudillo décidera s'il veut maintenir ou non son passé franquiste, en votant ou pas pour l'actuel maire.
Asperger war ein guter Kinderarzt. Seine, ich glaube, zwei Töchter sind auch Kinder.
Vous avez sans doute déjà entendu parler du syndrome d'Asperger pour certaines formes d'autisme, mais des révélations récentes viennent de faire tomber de son piédestal le pédiatre autrichien qui a donné son nom à ce syndrome. Un livre montre qu'il a été un soutien des nazis et souligne la difficulté de l'Autriche à se replonger dans son passé. Céline Béal.
Dans son livre « Les enfants d'Asperger », disponible depuis la semaine dernière en français, l'historienne américaine Edith Schaeffer décrit la complicité d'Hans Asperger dans les atrocités nazies. Elle dresse un portrait à charge en se basant sur de nouvelles découvertes publiées l'année dernière. Un historien viennois de la médecine, Hervik Schesch, s'est penché sur des sources que l'on ne connaissait pas encore. Et elle montre qu'Hans Asperger a affiché son allégeance aux principes racistes de la médecine nazie et en a été récompensé avec des perspectives de carrière. Et surtout, le pédiatre a coopéré activement avec le programme d'euthanasie des enfants. Il a fait partie d'une commission qui a décidé que 35 petits patients étaient soi-disant inéducables et devaient donc être envoyés au Spiegelgrund. Ce nom très connu à Vienne aujourd'hui est celui d'un centre soi-disant médical où des enfants jugés anormaux étaient en fait assassinés. Ces découvertes sont venues réfuter définitivement l'image qu'a longtemps eue Asperger dans son pays. Il était considéré comme un bon docteur qui avait défendu certains de ses patients autistes. Il aurait tenu l'équivalent d'une liste de Schindler où il minimisait leurs symptômes pour les sauver du pire. Après la guerre, il avait continué d'exercer, sans questionnement. Il faut dire qu'en Autriche, il a fallu attendre les années 80 pour que l'on commence à s'interroger vraiment sur le passé nazi de larges pans de la société. Les révélations récentes concernant Hans Asperger ont été largement relayées par la presse. Elles ont montré au public autrichien que le travail de mémoire n'est pas encore achevé.
Suite à ma vidéo sur les applis de rencontre, les gens de Tinder m'ont contacté. Ils ont dû se dire « Putain, ce mec représente vraiment l'essence même de la séduction. »
Super faux !
Non, en vrai, ils m'ont contacté pour me donner des conseils. Le truc bien vexant. En gros, ils m'ont transmis une étude officielle qui montre par exemple quels sont les profils les plus likés ou quel genre de photos accrochent le plus. Tout ça, tout ça.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Juliette.
La lune de miel entre les Européens et Tinder, le géant californien des applications de rencontres, semble bel et bien finie. De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer les conséquences de l'apparition des algorithmes dans notre recherche de l'amour et du sexe. Alors Eve, est-ce que c'était vraiment mieux avant ?
En France, près d'un quart de la population s'est déjà inscrit sur un site comme Tinder, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Et si les usagers étaient plutôt au départ diplômés et évoluaient dans un milieu urbain, aujourd'hui toute la population est concernée, et ce, dans toute l'Europe. Tinder, c'est aujourd'hui 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Je crois qu'on peut parler de succès.
Oui, incontournable, mais de plus en plus critiqué, hein Eve ?
Oui, de plus en plus, les chercheurs se penchent sur les effets pervers de ces applications et l'apparition de nouvelles pratiques au nom d'oiseaux souvent anglophones, tels que le ghosting, le fait d'arrêter de communiquer avec quelqu'un sans donner de raison, le phishing, d'envoyer le même message à des dizaines de partenaires en attendant que ça morde quelque part, ou encore le serendipity dating, que j'ai découvert en préparant cette chronique, mon préféré, le fait de repousser un rendez-vous dans l'espoir de rencontrer quelqu'un de mieux d'ici là, c'est un tout petit peu cynique, des manières de faire pas joli joli qui nous feraient en effet presque regretter les rendez-vous amoureux à l'ancienne avec le collègue croisé dans un couloir.
Mais oui, une journaliste française s'est penchée sur les algorithmes de la célèbre application de rencontre. Les résultats de son enquête font froid dans le dos.
Elle est, selon le très sérieux Times, la Française qui a défié Tinder. Judith Duportail consacre un livre entier à son expérience sur l'application et l'enquête qui en a suivi dans L'amour sous algorithme aux éditions La Goutte d'Or. C'est une histoire à la David contre Goliath, comme celle qui avait opposé à l'époque l'Autrichien Max Schrems au géant Facebook en 2011. Après avoir réclamé, comme elle en a le droit, l'intégralité de son activité sur l'application, 800 pages en PDF tout de même, elle a découvert que Tinder gardait en mémoire tous ses faits et gestes pour la rendre encore plus accro.
Mais surtout, elle a découvert, Judith Duportail, elle a découvert que les algorithmes n'étaient jamais neutres.
Ouais, c'est le grand scoop du livre et la partie la plus intéressante, je trouve. En étudiant le brevet déposé par l'application, elle s'est rendue compte que l'entreprise se réservait le droit de noter les utilisateurs sur leur physique, leurs revenus, bref, une espèce de note de désirabilité. Le plus inquiétant, c'est que les points attribués ne le sont pas de la même manière pour les hommes et pour les femmes. En se basant sur les statistiques qui montrent que traditionnellement, les hommes recherchent des femmes plus jeunes et moins diplômées qu'eux, les utilisateurs hommes augmentent donc leur score de quelques points avec un bac plus 5 quand cela engendre des malus chez les femmes. L'auteur raconte d'ailleurs que l'une des cofondatrices de Tinder a claqué la porte pour fonder sa propre application de rencontre féministe. On comprend mieux pourquoi.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
It has never been easier for young people to access porn.
That is after two clicks. If my son ever treated a woman like that, yeah. I would kick his ass to kingdom come.
Five concerned mums come together to tackle the porn.
C'est compliqué la séduction et la sexualité, ce n'est pas simple non plus. Ce soir, Channel 4, chaîne de télévision britannique, diffuse le dernier épisode d'un documentaire, on va dire très salé, Moms Make Porn, les mamans font du porno. Cinq mères déçues des films que leurs ados peuvent trouver trop facilement sur Internet ont décidé de se transformer en scénariste, en chef de casting, en réalisatrice pour tourner un film porno pour leurs enfants. Alors en attendant, éloignez les vôtres du poste, le reportage de Marie Billon est assez explicite.
So yeah, I was just preparing a little tea for us to sit down and talk about porn.
Évidemment, tout commence autour d'une tasse de thé. Cinq mamans se retrouvent à l'après-midi dans la cuisine de l'une d'elles pour regarder du porno, le genre de vidéo que leurs ados peuvent trouver sur Internet.
Oh my actual God!
That is very nasty. Yep, les mamans ne sont pas emballées. On sent même qu'elles sont choquées. Ça va des mères très prudes jusqu'à celles qui adorent les pornos et en regardent régulièrement. En tout cas, la décision est prise. Elles vont créer le porno idéal. Celui où la violence n'est pas mise en scène, où la femme n'est pas un objet soumis au désir de l'homme. L'idée, dit l'une d'elles, est qu'on soit contente que nos enfants regardent ce film pour leur éducation sexuelle. Pas de censure pour autant quand les mamans se demandent quel genre de porno elles veulent tourner.
Okay, so I'm quite open to girls. Girl.
Yeah, I like girl and girl. Yeah.
I think orgy, I do think, yeah. Yeah, S&M, dominatrix. Anal.
Les idées fusent, porno lesbien, orgie oui, mais consensuelle, domination d'accord, mais respectueuse, et puis chacune propose une intrigue.
I think.
The moms have each worked on an idea for their film.
My male is going to be, I can't help it, it's going to be a bit masculine. I want him to be older.
Is that Gary Lineker?
Ça va du réparateur de machine à laver qu'on n'a pas les moyens de payer au vendeur de légumes à la main baladeuse. Avant de se décider, il faut enquêter, bien sûr, sur la faisabilité.
Mom of two, Emma, is spending her Friday night watching her very first porn shoot.
Les mamans font donc deux équipes et vont se rendre sur des plateaux pour voir comment on tourne un film porno. La production de Channel 4 n'a pas été tendre avec elles. Elle les emmène d'abord dans des tournages hardcore, à petit budget. L'une d'elles doit même aider l'actrice à attacher une lanière de cuir autour de sa fesse. Mais c'est sur l'autre tournage que ça se passe le plus mal. L'une des mamans, même pas la plus prude, doit sortir faire une pause et finit par aller vomir dans le jardin.
I think it might be the cum bit that's not for me.
Ça c'était le premier épisode parce que l'histoire continue, hein. On fignole le scénario, on fait le casting et puis on tourne. La série se conclura certainement sur un visionnage en famille ou pas.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot, vous nous retrouvez, vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur la page internet de l'émission RFI.fr, dans les podcasts Accent d'Europe. Nous serons ici demain à la même heure.